Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Salut Pauly Domso. Regardez-moi cette coupe de cheveux qui est magnifique. On ne peut pas en dire autant de Big Rusty, mais bon.
Bah après, toi, c'est fait main ou c'est par un coiffeur, Pauly?
Alors, je suis pas allé chez le coiffeur depuis où là?
Ouh là là.
Non, là c'est juste le peigne d'Allemand, comme dirait Rabelais, le matin, comme ça, et puis composé des 5 doigts et du pouce, ou des 4 doigts et du pouce, je sais plus. Petite référence littéraire pour ceux qui la capteront, donc voilà.
Oh là là, c'est beau.
Voilà, et puis Rusty, c'est tondeuse maison bien. Aujourd'hui, on
c'est moi-même, hein.
Exactement, ouais. On s'intéresse aujourd'hui au combat que l'on veut voir en 2022. Il y en a pas mal, générique. Soit. Quel est le combat que vous souhaitez voir pour 2022? Je vais commencer avec une petite piste qui devrait faire plaisir à Pauly Domso. Gamrot versus Barnaoui volume 2.
Oh, en plus, oh. Je voulais parler de Gamrot parce que Gamrot, il nous a fait quand même une année complètement sous les radars pour le coup. Personne ne fait trop attention à lui. Il passe un peu, tu sais, sur le côté, tu vois, genre comme ça. Mais trois combats, trois finitions en 2021 avec une adversité croissante. Il a terminé en battant un de mes chouchous de l'année dernière, Diego Ferreira, bon, qui malheureusement, lui, pour le coup, n'a pas eu trop de bol. Il s'est incliné contre Darius en speed décision dans un combat qui a été tendu, mais bon, clairement à l'avantage de Darius, je vais pas mentir.
Complètement.
Il a fait un combat contre Gillespie où bah, il s'est épuisé sur le premier round et il s'est fait terminer au deuxième. Et là, troisième combat, c'était un beau combat contre Gamrot qu'il a fait, avec beaucoup de renversements. C'est franchement, pour ceux qui aiment bien un peu le MMA de geek, j'ai envie de dire, sur des techniques qu'on voit pas souvent, je vous recommande de regarder ce combat parce qu'il est très beau pour toutes les mises au sol de Gamrot. Gamrot, ça devient il est vraiment bon quand même. Hein. Les low singles qui passent, j'ai l'impression de voir Sakuraba, mais sous cure de testo, tu vois. Enfin, vraiment, il va très très vite et il est fini. Alors, il n'a pas le contrôle au sol encore digne des plus grands. Je pense que c'est un peu la carte qui lui manque pour vraiment devenir un cauchemar, Gamrot. Mm-hmm. Néanmoins, il a cette capacité d'imbriquer ses tentatives de takedown avec une super vitesse et avec un striking qui, bon, n'est pas fantasmatique, mais qui est pas mal, quoi. Je veux dire, il cogne dur et il sait ce qu'il fait, donc c'est suffisant. Et de son côté, Ferreira avait de très bons scrambling, il se relevait tout le temps. Enfin, c'était un beau combat qui a été du coup arrêté sur blessure de Ferreira, j'ai l'impression.
Et c'était je crois qu'il est. Alors, il a dit qu'il était déjà blessé, je crois, à la côte. Mais n'empêche que, c'est vrai que ce finish, enfin, il est tellement opportuniste, mais dans le meilleur des sens du terme, Gamrot. Enfin, tu sais, c'est un peu comme. Oula, alors attention, la comparaison, ok. Mais c'est un peu comme Elon Musk, tu sais, c'est genre. Non, mais attendez d'abord. Écoutez d'abord. En gros, tu sais, il prend un problème sans avoir regardé ce que les autres font d'abord, et il fait avec ses propres solutions. Et le fait d'arrêter un combat sur une ouverture où ils sont contre la cage et dans le dos d'un mec, et lui, il va dire « Ah bah putain, il y a une ouverture pour mon genou », et boum, il te pique un genou. C'était la première fois que je voyais vraiment un combat arrêté sur quelque chose comme ça. Et même des genoux dans cette position-là, enfin, faut avoir le cerveau qui fonctionne d'une manière qui, je trouve, est un peu différente. Et du coup, c'est pour ça que bah, Gamrot, effectivement, bon, c'est vrai que c'est un peu un truc de geek parce qu'il est effectivement, bon, il parle un anglais. Par contre, c'est une belle
leçon.
Pour
l'instant, un truc de geek.
Ouais, et c'est une belle leçon, justement, pour tout le monde, je trouve. Et nous tous, hein, pour moi, ce serait l'allemand, tu vois, mais il parle pas bien anglais du tout, il fait n'importe quoi, mais il y va avec une confiance en lui qui fait que tout passe et j'adore. Franchement, c'est vraiment une belle leçon de vie, Gamrot au micro.
Donc, valider Gamrot. Et puis oui, la question qu'on se pose, bien évidemment, c'est aussi par rapport à Mansour Barnaoui. On attend depuis maintenant un petit moment son arrivée à l'UFC, n'est-ce pas, Pauly Domso?
Ouais, bah moi j'attends et je me languis parce que c'est un moment quand même qu'on a envie de le voir.
Ça fait plus de 2 ans, non, depuis sa victoire au tournoi.
Ouais. Sa victoire du tournoi, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a une année qui est partie un peu en fumée, quoi. Elle a disparu, tu vois, mais on ne sait pas trop où elle est passée. Mais ouais, donc ça fait un moment et ouais, il a tellement de potentiel et surtout moi j'ai envie de le voir parce que à mon sens, c'est un des rares qui apporte une réponse intéressante au style grappling heavy, chain wrestling de toute cette école daguestanaise. Quoi. Enfin, pour ne citer que, il y en a d'autres qui le font, mais c'est eux les meilleurs. C'est eux qui sont en pointe. Tu vois, toute la team de feu, Abdulmanap, c'est eux qui sont en pointe dans cette, j'allais dire dans cette technologie, mais dans cette façon de faire, dans cette méta-là. mais en fait, c'est parce que moi, je fais souvent des comparaisons entre la course aux armements et le...
Ouais.
Si tu veux, il y a une logique qui est un peu comme ça, où tu vas trouver une solution et tu vas être en suprématie jusqu'à ce que quelqu'un trouve le contre, en fait, par rapport à ça, la tactique qui te permet de contrer la tactique la plus efficace. Et Mansour Barnaoui, c'est un des rares qui a vraiment développé ça, parce que en fait, ça fait partie de son développement. Il a beaucoup combattu dans les organisations de l'Est. Il a rencontré plein de gens comme ça et il a développé progressivement un sol et une façon de voir les choses, de se placer dans la cage qui est en totale réaction par rapport à ça et qui fonctionne, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait à... C'était qui déjà
le cousin de Khabib, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais.
Ah mince, qui a pris sa retraite, je crois, en plus récemment.
Ah ouais ?
Ouais, il me semble. Ouais. Et je me souviens plus son nom, mais c'est un très bon combattant. Shamil...
C'est pas Magomed quelque chose ?
Oh, c'est terrible. Bon, bah, c'était l'avant-dernier combat qu'il a fait, en fait. C'était pour la finale du
tournoi. Et ensuite, il a pris la ceinture.
Et si vous... Si vous voulez, ce combat, c'est un best-of de tout ce qu'il faut faire contre le style américain.
Shamil Zavourov.
Shamil Zavourov, voilà. Okay. J'avais dit Shamil.
C'est vrai.
j'avais plus le nom de famille en tête. Bref, très bon combattant d'ailleurs, au passage. Et la façon dont il a contré la stratégie de Shamil Zavourov, il y avait Khabib dans le corner de Shamil Zavourov. Donc c'était assez marrant parce que Khabib le dirigeait vraiment vers cette tactique d'amener contre la cage. Et en fait, c'était super intelligent. À chaque fois qu'il se retrouvait contre la cage, il se poussait, il s'éloignait de la cage pour ensuite placer son sweep. Le fameux sweep qu'il a placé 5 fois, enfin, c'est le seul combattant au monde qui arrive à placer des sweeps comme ça.
Au Daguestanais, ouais.
Au Daguestanais, quoi, c'est hallucinant. D'ailleurs, son combat contre Islam Makhachev était marrant parce que tu voyais. Bon, le combat est génial d'ailleurs, c'est un des combats les plus tendus d'Islam Makhachev. Et bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais ce qui est marrant, c'était tu voyais la surprise dans le regard d'Islam qui se dit non, c'est pas normal, normalement, on n'est pas censé me renverser dans cette position-là. Donc, c'est pour ça, franchement, moi, j'ai envie qu'il vienne parce qu'il arrive au bon moment. C'est le mec qui a le sésame, qui a la technique pour contrer ces gars-là.
Mais il faut que ce soit maintenant. Il faut que ce soit maintenant.
Il faut absolument que ce soit maintenant. Et d'autant plus que, en plus d'avoir clairement ce joker par rapport à l'arsenal daguestanais, en plus de ça, Mansour Barnaoui, c'est, enfin, tu sais, quand t'as Georges Saint-Pierre qui ne t'arrive pas d'éloge à propos de tes capacités physiques et de ta manière de t'entraîner et de ton potentiel. Bah, j'ai envie de dire, c'est le ticket en or de Charlie la chocolaterie. Tu ne peux pas faire plus haut en termes de d'éloges et de potentiel. Et en plus de ça, ben voilà, c'est vrai qu'on le sait parce que du coup, il a quand même vraiment bien rodé les différents circuits Mansour Barnaoui, que ce soit effectivement le M1, que ce soit le Road FC en Corée, que ce soit, je crois, le Bama. Il a
exactement,
gagné là-bas.
Feu le Bama.
Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a un striking qui est vraiment létal aussi. Il a un corps qui est vraiment intéressant pour le MMA, tu sais, avec une grosse emphase. Je sais qu'on en parlait souvent, mais avec une grosse emphase sur le haut du corps. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont très intéressants chez Mansour Barnaoui. Et c'est vrai que c'est, je sais pas où ça en est, pour être tout à fait honnête, de l'UFC, parce que je croyais,
c'est en cours de négociation. C'était censé être quasiment fait il y a quelques mois, ouais.
Ah putain, bah prions, parce que effectivement, c'est franchement là, c'est vraiment le moment. En plus, il est encore relativement jeune. Je crois même pas qu'il ait 30 ans.
Mais non. Ouais.
Donc là, il faut y aller, effectivement. Je crois que c'est...
Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Un combat d'entrée. Bon, ce serait pas un cadeau contre Gamrot, parce que justement, de tous les gars qui ont battu Barnaoui, Gamrot, c'est celui qui, à mon avis, l'a battu le plus nettement.
Mais Kevin Lee est déjà parti.
Et le problème, voilà, c'est ça que j'aurais bien aimé contre Kevin Lee. Mais bon, en réalité, si tu creuses un peu, tu vas trouver d'autres combattants.
Et cela dit, Polydomso, je pense que c'est plus... Je pense qu'on est plus proche d'un Kevin Lee Barnaoui 2 au Eagles FC... qu'un Gamrot Barnaoui à l'UFC.
Ouais, malheureusement, parce que Gamrot, il monte, il est 13e, je crois.
Ouais.
12e. Il a doublé Tsaroukian, ce qui est quand même assez dingue.
Ouais.
Mais en fait, fou, en réalité, quand tu regardes la catégorie lightweight, j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu en trompe-l'œil. C'est parce qu'on a une place 6, 7 et 8, où à mon avis, les mecs 6, 7 et 8, ils sont pas 6, 7 et 8. C'est RDA, Dan Hooker et.
Je ne sais
plus qui d'autre. Et en réalité, c'est des gens-là qui sont là parce qu'ils
Tony Ferguson aussi.
Et Tony Ferguson, voilà. Malheureusement, et je pense qu'ils sont plus à cette place-là en réalité, et que qu'en fait Tsaroukian, Gamrot et il y en a un autre, à mon avis, devraient être dans cette place-là en fait, très honnêtement.
C'est pas Gillespie ?
Gillespie, ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. ouais.
C'est, à mon sens, ces mecs-là devraient être beaucoup plus, devraient être plus haut en fait dans la catégorie. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont un nom, qui ont certaines victoires, qui c'est un peu comme une traînée, tu vois, et ils sont sur leur lancée. Et tu peux pas les faire, tu peux pas les dégager du top 15 comme ça.
Ouais.
Néanmoins, j'ai l'impression qu'en termes de dynamique. Ce qu'on voit, c'est que c'est les gars que je viens de citer, à mon sens, mériteraient d'être un peu plus haut dans la KT. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour Barnaoui, à moins qu'il fasse une entrée à l'UFC tonitruante en explosant un gars, d'aller tout de suite décrocher ses noms-là, en fait. Parce que ça va être, parce qu'il n'est pas connu aux États-Unis, malheureusement. Et bon, ils auront suffisamment d'images d'archives à l'UFC, surtout si Islam devient champion. Je pense que ça
va être
un bon levier de traction, parce que c'est quand même un des combats les plus durs d'Islam Makhachev. Ils auront peut-être moyen, tu vois, de le médiatiser, de le rendre un peu plus médiatique. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir choper le combat contre Gamrot comme ça.
C'est ça.
Ouais,
immédiatement, tu vois, c'est compliqué.
Je vous propose qu'on avance un petit peu, messieurs, parce que 10 minutes par combat, on n'est pas couché. Sinon...
Ah oui, pardon. Ouais, pardon.
Il y a aussi un choc qui m'intéresse. On va rester dans ces geekeries du MMA. C'est Oliveira Makhachev.
Oh là là. Bah effectivement, de toute façon, celui-là, je pense que c'est une question de temps avant qu'on l'ait. Parce que, ça dépendra de si Oliveira gagne son titre contre Gaethje. Mais c'est marrant. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde surkiffe Gaethje, mais tout le monde a vraiment envie de le voir ce combat. Et en plus, enfin, ce serait tellement frustrant qu'on ne l'ait pas parce que, c'est un peu le même avec
Spider-Man. Peter Parker,
c'est
pour ça, exactement.
Tony Ferguson, Khabib, hop, et là, tu l'enlèves, tu le remets, et en fait, c'est Oliveira Makhachev, et c'est vraiment ça. On en a tellement bavé de de ce combat qu'on n'a jamais vu entre Ferguson et Khabib, de est-ce qu'il possédait la clé avec
5 fois l'UFC a essayé.
Non, mais
5 fois.
C'est entré dans l'histoire. La malédiction, vraiment. Mais là, on a encore une opportunité. Et franchement, on est comme dirait Paul Dumso, tellement à un fifrelin. Là, vraiment, si Oliveira gagne, on a un truc vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Mais Rust, est-ce que c'est un petit si ? Parce que je me permets de te couper là-dessus. Est-ce que c'est un petit si ou alors on est sur quelque chose de tranquille ?
Pour Oliveira ?
Oui.
Le problème, c'est que tranquille, à moins que tu sois Khabib, tranquille et affronter Gaethje, c'est littéralement, tu sais, c'est deux pôles, les mêmes pôles qui se repoussent.
Aimants, ouais.
Ouais, voilà, c'est pas possible. Ça n'existe pas un combat facile normalement contre Gaethje.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Donc, honnêtement, c'est ce qui serait le plus beau. C'est si jamais Oliveira, là, tu sais, il continue sa transformation, je ne sais plus comment on appelle ça, sa chrysalide ou je ne sais plus quoi, en papillon, là, et qu'en gros, il rend le combat facile d'une manière ou d'une autre contre Gaethje. Si jamais il arrive à faire ça, tu sais, il fait, entre guillemets, ce qu'il a fait contre Dustin Poirier à la fin du combat, mais il le set up encore plus rapidement, il passe dans le dos, il fait une soumission éclair, un truc comme ça. Si jamais il arrive à faire ça et qu'il fait ça à Justin Gaethje, alors là, franchement, honnêtement, on va avoir vraiment quelque chose d'historique. Si jamais ils arrivent à bien le vendre, si jamais Khabib vient et donne son grain de sel en mode ouais, c'est vrai, en plus, Makhachev, il est encore plus fort que moi, il a toujours été, machin. Si le hype de cette manière est que.
D'ailleurs, il met souvent KO en sparring.
Ouais, putain, t'imagines. Mais du coup, et si jamais ça se fait comme ça, effectivement, c'est le combat en lightweight que j'ai envie de voir.
Bon, Polydomso, est-ce qu'il y a un choc, par exemple, chez les lourds, que t'aurais envie de voir ?
Non, mais évidemment, bon, c'est parce que moi, parce qu'on est sûr de l'avoir, c'est Ngannou Gan, ça c'est.
Ouais.
Voilà. Quoi,
c'est le rêve.
Pour moi, c'est déjà acquis. Tu vois, c'est déjà, c'est bon, tu vois, ça c'est sûr. Donc évidemment, ça c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Et en fait, j'aimerais. j'irais même plus, je préciserais plus, j'ai envie de voir le meilleur de Ngannou contre le meilleur de Gane, quoi. C'est parce que j'ai toujours cette crainte avec cette appréhension avec Ngannou que bah il envoie voler un peu le game plan et il y aille un peu en mode berserk, et je pense que ce serait dommage, ce serait frustrant. Ouais. Parce que le Ngannou qui a battu Stipe Miocic, franchement, j'ai envie de le voir plus souvent. C'est malheureux qu'il y ait eu cette dispute avec l'UFC, c'est malheureux qu'il y ait eu des problèmes de négociation et tout, parce que on nous prive quand même d'un mec qui est au top, quoi. Et en fait, en réalité, pour ceux qui regardent les sports de combat depuis longtemps, vous savez, vous devenez cynique avec le temps, mais vous savez que c'est cet état de grâce chez les combattants, vous l'avez pas très longtemps, en fait. Même si les gens, ils continuent de dominer. Par exemple, Fedor, il a dominé pendant 10 ans, mais en fait, son état de grâce, il a duré peut-être 3 ans, en réalité. Si ouais. On est vraiment sérieux, en regardant combat par combat, contre l'adversité, là où il était vraiment au meilleur, c'est ses combats contre Nogueira et contre Crocop, quoi. Et puis ouais. Ensuite, il y a un petit déclin, tu vois. Et je pense qu'en fait, le sommet comme ça, où tout est aligné, où tu as la technique, les bons préparateurs, la condition physique optimale et tout, bah, ça dure peut-être 1 ou 2 ans, quoi. Et ouais. Donc, peut-être qu'on nous ait volé comme ça 6 mois de Ngannou.
Qui a déjà 35 ans.
Qui a déjà 35 ans, oh là alors là, qui vient de tout mettre en place, bah, ça fait chier, tu vois. Et c'est pour ça que j'espère qu'il a encore ce feu en lui et qu'il a encore toute cette technique, et peut-être même qu'il s'est encore amélioré, on peut rêver, parce que ce serait magnifique qu'il ait ça contre Gane. Et Gane, de son côté, je ne m'inquiète pas, parce que lui, pour le coup, il a eu l'activité. Et je pense que Gane, on arrive vraiment à son optimum.
Oui,
aussi,
on est toujours au début. Ouais.
Je ne sais pas combien d'heures il a passé dans l'octogone sur les 2 dernières années, mais c'est le meilleur entraînement, quand tu passes du temps et que tu fais des rounds. Et je pense qu'il est vraiment dans la super lancée avec sa confiance et tout. Donc je m'inquiète pas pour Gane, j'ai un peu plus d'inquiétude pour Ngannou, parce qu'en fait j'aimerais que Ngannou soit au top pour qu'on ait le plus beau spectacle, quoi. C'est ça.
Mais messieurs, au-delà, bien évidemment, on va faire la preview de l'UFC 270, et au-delà de nos préférences, bien évidemment, Ngannou contre Jones ou Gane Ngannou, ou Gane Jones.
Franchement, personnellement, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment au niveau de ce que j'ai envie de voir, c'est pareil. C'est vraiment au même niveau pour moi. Parce que ce sera deux combats tellement différents. Parce que bah, si c'est Gane versus John Jones, ce sera mais vraiment un combat de technicien pur, quoi. Ce sera un combat de peut-être des deux combattants, alors en tout cas en poids lourd, je pense, c'est sûr, qui ont la plus grande intelligence de combat peut-être de l'histoire de l'UFC, tu vois. Enfin, franchement, ce serait, avec un John Jones en plus, l'histoire qui, en ce moment, avec sa montée chez les poids lourds, le fait qu'il se prépare depuis des années, il y a une petite inconnue aussi de ce côté-là, mais on sait ce qu'il a apporté quand il était à son pic aussi chez les light heavyweight, il était intouchable. Ben là, franchement, c'est vraiment un régal absolu pour les fans, et peut-être un des combats les plus intéressants, où il y a le plus d'inconnus de l'histoire des combats poids lourds. Et puis, je pense que ce serait peut-être le combat le plus technique qu'on ait jamais vu en poids lourd, en tout cas. Et effectivement, ben, Jones contre Ngannou, enfin là, ben c'est vraiment force brute, force pure, force de la nature, contre le pur technicien qui monte en poids lourd et qui n'a jamais été, entre guillemets, officiellement battu. Ce serait rêvé aussi. J'ai pas de préférence. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas pour vous, je sais pas pour toi, Polydome, je sais pas pour toi, Guillaume, mais j'ai pas de préférence. Les deux, j'ai trop envie de les voir.
Moi, je pense qu'en fait, en réalité, moi, ma préférence va à celui qui gagnera le combat entre.
Ouais, c'est ça.
C'est simple, ça va faire le tri, parce que si Gane bat Ngannou, il y a de fortes chances de penser que c'est Gane qui va le battre par technicité, en le désarmant, si tu veux. Et bon, ce serait une redite. Si John Jones combat, ce serait à peu près la même menace, donc ce serait moins intéressant pour moi. Je pense, en fait, ce qui va vraiment déterminer, c'est celui qui va gagner, et à ce moment-là, l'enjeu, de toute façon, sera au top, et même d'un point de vue technique, sera super intéressant, parce que c'est-à-dire soit que Ngannou a désarmé un technicien qui était meilleur que... plus sophistiqué que lui dans son approche technique, et donc du coup ça annonce de bonnes choses pour sa rencontre face à John Jones. Soit si c'est Gane qui a vraiment mystifié Ngannou, bah là on peut se dire justement un combat de geek entre deux maestros, donc c'est ouf aussi. Donc moi je pense qu'on va pas bouder notre plaisir, si ça se fait on sera content déjà. Enfin,
ni l'un ni l'autre, messieurs, et le dernier, c'est bien évidemment, c'est nos combats rêvés, mais dans le champ des possibles. Pour moi, c'est Khamzat contre Kamaru Usman en 2022. Parce qu'aujourd'hui, même si certains pensent que c'est trop tôt, je pense vraiment que c'est le seul qui peut poser de sérieux problèmes, sinon faire tomber Kamaru Usman, Hamza Chimaev, Poli Domso. Est-ce que je m'enflamme un petit peu?
Ben non, mais moi de toute façon, je pense que c'est des trois, c'est moi qui m'enflamme le plus parce que bon, non, mais enfin vraiment, Ramzat, j'étais moyen chaud au début quand je le voyais au Brave parce que je me disais, bon, bah de toute façon, il y a un écart de difficulté qui fait que peut-être cette capacité justement qu'il a d'exploser ses adversaires, bah, elle sera réduite quand il va rencontrer vraiment de l'opposition de haute valeur. Et en fait, non, en fait, il continue de. Il y a un truc. Physiquement qui est étrange en fait, où tu te dis bah non, mais en fait c'est quasiment pas juste qu'ils s'affrontent, ces gens là tu vois. Quand j'ai regardé contre Li Jingliang, alors certes c'est pas un bon anti-lutteur, c'était un match favorable pour Khamzat, j'en ai conscience, mais c'est quand même un mec qui a de la bouteille, qui a affronté de très bons adversaires, qui est très dur, et là il a été totalement impuissant, et impuissant à un point où c'en est flippant, c'est-à-dire vraiment c'est pas normal de prendre un mec qui est top 10 mondial et de jouer avec comme si c'était un gosse, quoi. C'est surtout dans une des KT où la compétition est la plus relevée. C'est normalement ça ne se, j'ai envie de dire, ça ne se fait pas, un truc. et il l'a fait, Khamzat. Donc moi j'étais moyen chaud, mais là franchement force est de constater que bah si, je pense qu'il y a de la hype, il y a certes de la hype, mais elle est méritée.
Elle est réelle
et j'ai envie de... Non, puis même, je me dis, bah, prenons des risques un petit peu, quoi. Quand tu as un mec comme ça, qui a de l'engouement, qui suscite tu vois, de l'attention et tout ça, franchement, moi, il n'y en a pas trop d'autres qui me font rêver chez les Walter White. Belal Muhammad, j'aime beaucoup, mais à mon avis, il ne me fait pas rêver. Léon Edwards, bah, là, c'est un peu de sa faute, hein, Léon Edwards. Il pourrait, tu vois, créer l'engouement, mais il n'a pas ce... Il n'a pas ce truc, tu vois, cette petite étincelle qui fait que tu te dis, bah ouais, putain, c'est peut-être le mec. Franchement, est-ce que vous imaginez la catégorie Walter White avec Léon Edwards champion, quoi? C'est juste. Et je dis ça et j'adore sa technicité, j'adore le fait que c'est un combattant élite, ça, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a des gens comme ça, c'est injuste, tu sais, au fond de toi-même que. Bah, ils ne sont pas champions, ou s'ils sont champions, ça ne durera pas. Enfin, c'est malheureux comme ça. Alors que Khamzat, je me dis, putain, il crée quelque chose. Et même s'il se vautre, bah, ce serait marrant. Tu vois, genre, qu'il arrive et que finalement ça marche pas et qu'au deuxième round ce soit une catastrophe, bah ce serait drôle aussi. Tu te diras, bah putain, là c'est du spectacle, tu vois. Genre, il y a aussi
drôle,
ça.
Drôle un peu comme le combat d'Aaron Till contre Tyrone Woodley.
Non, mais moi je trouve, tu vois, toute proportion gardée, ce qu'il fait c'est plus impressionnant que ce que vous êtes. Et d'Aaron Till c'était très impressionnant, ça montait en puissance, mais là les single legs qui passent comme
C'est sûr.
Laser, tu te dis, bah non, il y a un truc pas normal, quoi.
Bah non, mais c'est clair, avec toute l'affection que j'ai pour Darren Till, c'était pour l'instant, il y a, enfin, je sais pas, vraiment, on ne peut que le comparer, j'ai l'impression, à la montée en puissance de McGregor quand il est arrivé à l'UFC. Et faudra voir. Il faut, pour pouvoir le dire,
après,
il faut
encore. Après, il y a un truc supersonique aussi avec lui, qui a pas eu
c'est
avec.
C'est pour ça.
Dès quasiment son troisième combat, on s'est dit, peut-être que c'est possible.
C'est pour ça que ben en prenant même des pincettes parce que
Adesanya,
il a...
Adesanya peut-être.
Ouais, mais Adesanya, tu vois, il y avait des combats où ça avait été compliqué, tu vois, contre Marvin Vettori, ça avait été compliqué contre Wilkinson
aussi. Ouais.
Et puis c'était pas des comment dire, tu sais, des trucs où il arrive avec son tracteur et il défriche tout sans s'arrêter, quoi. C'était pas une moissonneuse et des épis de blé, quoi. Là, c'est ça avec Khamzat, c'est compliqué parce que effectivement. Là, je n'ai pas le souvenir, peut-être, j'ai pas le souvenir là tout de suite de quelqu'un qui est autant annihilé la concurrence en aussi peu de temps et autant de facilité directement. Parce que, bah voilà, comme vous l'avez dit, du coup, Adesanya, il y a eu comment s'appelle-t-il, Vettori. Pour Connor, il y a eu Mendes, et puis bon, contre Holloway, il s'était pété le genou, donc ça a duré trois rounds, mais bon, c'était quand même, il était très dominant. Mais ouais, avant de pouvoir le dire, j'attends le prochain combat de Khamzat, parce que s'il refait son tour de magie là, contre un gars comme Colby ou contre un gars comme Gilbert Burns, là, on pourra le dire sans aucun problème, ça aura été du jamais vu dans l'histoire. Mais on n'est pas loin, quoi. Enfin, là, voilà, il y a un combat de le réussir.
Ah, un free-frelin, finalement.
Un free-frelin.
Un free-frelin. Bien, bah, messieurs, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, ouais, j'en cite juste un comme ça pour rire, pour pas qu'on soit que UFC. Moi, il y a un combat que j'attends hors de l'UFC, c'est Mats Burnell contre Jim Mackey.
Oui.
Ouh là là, oui.
Et parce que moi, je pense que Mats Burnell va en surprendre plus d'un. et je laisse ça comme ça.
Ok. Et ouais. Reste allé un petit dernier.
Je crois qu'il va se faire, je sais plus, mais j'ai envie de. Alors bon, j'ai envie de voir comment Vadim Nemkov contre Anthony Johnson. Bon, c'est pas. Voilà, Anthony Johnson, on le connaît, il commence à se faire un petit peu vieux, son dernier combat était difficile. Mais en fait, c'est parce que j'ai Vadim Nemkov, même s'il est un petit peu, il fait attention, il est très précautionneux dans son approche, bah, n'empêche que, école de Fedor Emelianenko, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et avec son frère, oui, c'est ça, je crois que c'est son frère.
Victor Nemkov,
complètement. Ouais, voilà, Victor Nemkov. Et Vadim Nemkov, franchement, il a été impressionnant jusqu'à maintenant. Et juste, j'ai envie de le voir contre un gars ancien de l'UFC et entre guillemets que tout le monde connaît, simplement parce que s'il gagne et de manière spectaculaire, ben il y a moyen qu'après on le voit à l'UFC. Et juste pour ça, j'ai envie de le voir parce que franchement ils ont une pépite, le Bellator, avec Victor Nemkov, je trouve.
Vadim, pardon.
Affaire à suivre. En tout cas, vous le savez, Big Shala, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Oh wow, messieurs, on se retrouve très très vite. À la prochaine, bon réveillon à tous. See ya.
I'm fucking coming for you! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.